11h midi, Studio B avec Christophe.
Bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné et même de regarder des séries cette semaine. On se retrouve comme chaque dimanche entre 11h et midi pour parler de tout ce qui se regarde. On fera le tour des sorties ciné dans moins de 2 minutes avec ce mercredi deux grosses comédies, des journalistes et du reggae. Et aux alentours de 11h30, on fera le tour des actus ciné du moment. Mais avant, on va accueillir nos invités pour nous parler de la série qui va nous accompagner durant toute cette heure. Grand Palais Chicha Lounge nous emmène dans une chicha marseillaise, une chicha qui est plus qu'une chicha. Tous les soirs, elle propose des spectacles de chanteurs comiques ou même magiciens dans un lieu qui est toute la vie de sa patronne, Warda, qui a transformé à son image l'ancien bar de son père. À ses côtés, plus qu'une équipe, une vraie famille, du videur, le plus sympa des videurs, jusqu'à la serveuse, en passant par les artistes. Ça, c'est le décor qui va servir de base à des histoires d'amour et d'argent, puisque sa chicha attire la convoitise d'agents immobiliers, alors que le quartier où elle est se transforme, se boboïse, comme on dit, et que même la mairie aimerait bien qu'elle ferme. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Oran Hadjaj qui joue Warda. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Vous êtes donc l'actrice principale à qui appartient la chicha Le Grand Palais, et Florent Sauzé, co-réalisateur et co-scénariste de la série. Bonjour Florent.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes les bienvenus donc tous les deux sur Bain FM.
Merci, merci.
On va commencer par notre tradition. Dans Studio B, on propose à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, on vous la posera. Une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, il faut nous la dire. Mais comme ça, je ne la poserai pas. Je crois que vous avez déjà réfléchi à la question.
Ouais. Tu veux que je le dise ?
Ouais, je veux bien.
Alors moi, la question que je ne veux pas qu'on me pose, c'est est-ce qu'on blanchit vraiment de l'argent dans les chichas ou pas ?
D'accord.
Et la question qu'on aimerait que tu nous poses ou qu'on nous pose, c'est est-ce que Grand Palais ne serait pas une sorte de comédie musicale déguisée ? Parce qu'on a beaucoup travaillé la
musique. La musique est très importante.
Exactement. Et on aimerait beaucoup parler de ça et mettre l'accent dessus.
Bon, moi, j'avais pensé à en parler, en effet. Donc,
super.
Tant mieux, tout va bien. Allez, vous avez le programme, on peut démarrer. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 11 février. Bienvenue dans le 126e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Avec deux grosses comédies qui sortent ce mercredi, commencé par Chien et Chat 2 et avec Rinker ici, avec aussi Philippe Lachaud et Franck Dubosc, et les voix de Inès Reg et Artus. Je dis les voix seulement car Inès Reg et Artus interprètent les animaux d'une influenceuse et d'un flic. Ils ont tous les deux perdu leur maître et sont forcés de collaborer pour les retrouver. Forcément, un chien et un chat qui collaborent ensemble, ça va faire des étincelles. C'est le début d'un grand voyage drôle qui va les emmener jusqu'à l'autre bout du monde. Et la seconde comédie, c'est Maison de retraite 2 avec Kev Adams qui a aussi coécrit le scénario, avec également Jean Reno au casting, Daniel Prévost, Chantal Latsou, Jarry et plein d'autres. On se retrouve au foyer dirigé par le personnage de Kev Adams, foyer qui était dans Maison de retraite 1 et qui a la particularité d'accueillir de jeunes orphelins et des personnes âgées. Une mauvaise nouvelle vient d'arriver, le foyer doit fermer pour raisons sanitaires.
Vous avez 15 jours, passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et maison de retraite digne de ce nom.
Alors une solution est trouvée grâce à une autre lettre qui arrive.
Cher monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires.
J'ai une grande annonce à vous faire.
Ils vont enfin me couper les cheveux.
Non, on part tous en vacances à la mer.
Voilà, sauf que dans la maison de retraite qui est dans le sud et qui a prévu de les accueillir, il y a déjà des pensionnaires et qu'ils n'ont pas l'air très franchement heureux de voir débarquer des nouveaux pensionnaires.
On en fait quoi des nouveaux ?
Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi.
Génial, c'est la guerre !
Oh putain, ça recommence.
Ils vont s'entretuer les yeux, ça va être trop bien !
Le film qui a fait l'ouverture du Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez se veut être une comédie, mais aussi parler du problème des EHPAD, dont certains appartiennent à des entreprises dont le but est, on va dire, plus de faire de l'argent que de s'occuper de nos seniors, et mettre aussi en avant un second problème, plus administratif, cette fois dont on parle moins, avec le trop de règles qui est à suivre et qui pourrait décourager des entrepreneurs de bonne volonté de se lancer dans la création de maisons de retraite pour faire un peu concurrence à ces grands groupes. Autre film qui sort aussi mercredi, Vivant, film de Alix Delaporte avec Alice Izaz, Roche Dizem et Vincent Elbaz. On écoute la bande-annonce.
Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc ? Je sais réparer une caméra. Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
Bon, on y va ?
Ah, mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien.
Bon, ok, on va se démerder.
Je pouvais pas savoir.
Tu fermes ta gueule.
Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde.
Il y a une attaque à Bangui. Et là, il y a 128 morts.
Un gilet pare-balles ?
L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça.
Les trois quarts de la planète sont en train de crever, lui, il nous demande du rêve.
Qu'est-ce qui se passe ?
Damien s'est fait shooter.
Je vais le chercher.
Et il a des images ? C'est la chaîne qui me demande.
Tu crois qu'on peut le diffuser ?
Vous bossez pour un groupe.
Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans ?
C'est notre taf, hein. Un film.
Vivant, qui sort donc aussi ce mercredi. La réalisatrice a débuté sa carrière dans le journalisme au sein de l'agence Kappa. C'est un peu son expérience qu'elle raconte, celle de journaliste dont le métier change à grande vitesse dans un monde qui change même plus vite encore. Et enfin, si vous aimez le reggae, ne manquez pas Bob Marley, One Love. Après Queen et Elvis, c'est un nouveau biopic sur un grand nom de la musique. Bob Marley, une icône qui inspire encore des générations avec son message d'amour et d'unité. Il est incarné dans ce film par le britanno-marocain Kingsley Benadir, qui s'est un peu fait une spécialité d'incarner des grands personnages, puisqu'il a récemment joué le rôle de Obama dans une série, de Malcolm X dans un film Amazon Prime, ou encore de Ken dans le film Barbie de l'été dernier. Voilà pour les films qui sortent ce mercredi. Maintenant, direction la série.
Studio B, l'interview.
Une série qui est déjà disponible sur la plateforme France TV Slash, et c'est pas rien, puisqu'en plus c'est une série qui est gratuite. Du coup, France TV Slash, c'est la plateforme de streaming de France Télévisions, sur laquelle il y a toujours plein de bonnes séries, il faut le dire. Plein de bonnes séries et plein de bons documentaires. On a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro. Et donc, parmi les séries qui sont disponibles en ce moment, il y a Grand Palais Shisha Lounge. Je vais faire un résumé, moi, tout à l'heure, de la série à ma manière. Et si je vous demande à vous de résumer la série, on va faire un jeu. C'est Florent qui va commencer, et puis je vais dire top, et c'est Oran qui va prendre la suite.
Wow. Non, mais tu l'as très bien fait.
C'était bien fait, c'était même parfait.
C'était ça, en tout cas le point de départ, c'était ça, c'était de raconter. Alors t'as dit Marseillaise, là en vrai c'est encore plus précis, c'est La Ciotat, c'est vraiment une petite ville de province, tu vois. C'était important pour moi de montrer justement l'écosystème dans une petite ville de province, parce que c'est souvent là qu'on voit justement les bouleversements de la ville avec la gentrification, avec, tu disais, la boboisation, en tout cas avec les changements, on va dire, des centres-villes. Moi j'ai grandi dans une petite ville, donc j'avais envie de montrer ça. Et l'idée, c'était ça, c'est de montrer une chicha qui est dans le centre-ville de Marseille et qui se bat sa patronne, évidemment, sa grande patronne, sa puissante patronne, Wardas.
Et hop, c'est justement Brian qui va prendre le relais.
Cette puissante patronne qui a pas trop sa langue dans sa poche, j'ai envie de dire, et qui se laisse pas trop faire. Si on touche à son bébé, qui est donc au-delà de son fils, bien sûr, le Grand Palais, elle sort les griffes, quoi. Elle montre les dents et elle a pas envie de qu'on ne croit plus à ce lieu-là, parce que ce lieu-là il est important pour elle et pour plein d'autres gens aussi.
Qu'est-ce qui représente pour elle justement ce lieu?
Déjà c'est l'ancien bar de son père, donc c'est très important pour elle de continuer de faire exister le Grand Palais. Et puis voilà, c'est un endroit où effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est très familial entre eux, en fait, entre toute l'équipe et tout ça. Donc c'est un lieu où ils peuvent tous se retrouver, eux. Et normalement, à travers les épisodes, on voit que c'est un endroit bien convivial dans lequel on s'amuse bien et on écoute de la bonne musique.
J'ai lu que le nom...
J'allais enchaîner, moi je suis dans ton jeu.
Il est parti,
mais ce qui est important aussi pour elle et même pour le lieu, parce que nous, ce qui était important, c'était de dire venez ouvrir la porte de la chicha et venez voir comment ça se passe et venir voir que c'est un lieu justement où on se retrouve, on fait la fête, on écoute de la musique, comme tu le disais, on voit des spectacles de stand-up, des spectacles de magie, on passe un bon moment, on passe une bonne soirée, et on n'est pas dans des trucs, justement, l'idée c'était un peu d'enlever les clichés qui collent à ces lieux-là, et de montrer que c'était des lieux qui proposaient tout simplement des endroits où sortir et où faire la fête, on va dire alternatifs aux boîtes de nuit traditionnelles et, ou aux bars de centre-ville. Donc ça qui était important, c'était de montrer un lieu festif, alternatif à ce type d'établissement.
L'éclairage est très travaillé. Vous parliez de boîte de nuit, mais on sent que vous avez beaucoup travaillé le fait que ce soit un bel endroit. C'est un bel endroit, le Grand Palais.
Exactement, c'est un bel endroit. On a eu un super chef opérateur. J'en profite pour lui faire une passe dé, qui s'appelle Fabio Calderoni, qui a travaillé les néons, toutes les lumières des néons. On a essayé aussi de délimiter des espaces entre le bar, la salle, la scène, le bureau de Warda, avoir des ambiances lumineuses particulière, chaleureuse, et en même temps assumer le côté néon, fluo, lumière violette, parce qu'on va au Grand Palais, on est bien sapé, on a envie de faire la fête, on est bien maquillé, on a envie de danser, on a envie de fumer une chicha tranquille.
Faut être bien sapé et accompagné.
Exactement.
Sinon, il laisse pas passer.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est justement des lieux où tout est fait pour que tout se passe bien, en fait. Et à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, des fois, où une chicha, c'est un lieu qui craint, où ça va mal se passer et tout. Non, en fait. En tout cas, ces chichas-là, les chicha clubs, on va dire, les chicha lounge, sont faits justement pour passer un bon moment, pour qu'il y ait des filles, qu'il y ait des garçons, qu'on passe des belles soirées, quoi. Voilà.
Pourquoi elle s'appelle le Grand Palais, cette chicha? Qui veut répondre?
Je vais répondre à ça. Parce que je voulais que ça soit un comment dire, un établissement qui soit très français, vraiment implanté en France. Et quand j'ai vu que dans un clip que Jay-Z et Beyoncé s'offraient le Louvre, je me suis dit que Warda et Trésor allaient s'offrir le Grand Palais. Voilà. Et donc du coup, je voulais quelque chose qui soit justement un peu flambant comme ça. Et justement, je trouvais ça beau de donner un nom de musée à une chicha. Et en plus, voilà, le palais, ça pourrait être crédible, tu vois. Donc le Grand Palais, c'était lui donner.
C'est encore mieux.
Ouais.
les gens, ils retiennent facilement. En plus, souvent quand je dis Grand Palais, ils ont la référence justement du Grand Palais à Paris, quoi. Oui. Ça, on retient facilement.
Ouais, ça pourrait être un nom de chicha tout à fait crédible. En
vrai, grave.
Donc.
Vous ouvrez une chicha, vous savez déjà comment la nommer.
Exactement.
C'est vrai ?
J'aimerais bien en vrai, mais non. Je pense pas.
Pourquoi pas ? Et si on le faisait vivre vraiment, ce Grand Palais ?
Vas-y,
je te lance.
Ok, on en parle après.
Donc, la chicha est à Marseille, ou en tout cas à La Ciotat. Qu'est-ce que cette région apporte à la série ? Ohan.
Alors, déjà le sud, enfin cette région-là, je sais pas précisément. Moi, je viens pas de cette région, mais pour moi, c'est pareil que.
Pas loin, si je me trompe
ouais,
pas.
Ouais, pas loin, mais pourquoi c'est la même région pour de vrai, non?
Non, mais c'est le sud, quoi.
Oui, voilà. Non, on parle vraiment du sud.
On a l'accent, quoi. On sent l'accent marseillais.
On sent l'accent. On sent le chaleureux. Les gens, ils sourient. Moi, je suis venue habiter à Paris il y a quelques années. J'ai vraiment eu un changement entre le bonjour du sud et le bonjour de ici, ou les sourires qu'on te rend pas, par exemple ici à Paris, et qu'on te rend dans le sud. Donc, je pense le côté chaleureux, le côté ouais, on est tranquille, quoi. On n'est pas sous pression. On est, je sais pas, on est heureux de vivre.
Un vocabulaire aussi.
Ouais, un vocabulaire, aussi, un argot, des mots.
En fait, si tu veux. Il y a des mots, j'ai pas tout compris. Hein.
Ouais. C'est vrai. En plus, c'était important pour moi que ça part vraiment le sud. Après, en réalité, on a eu justement dans le casting, on a eu des comédiens et des comédiennes qui viennent de partout. Mais le sud, c'est ça. Mais c'était aussi une manière de montrer que dans une petite ville comme ça, comme La Ciotat, il pourrait y avoir aussi beaucoup de métissage, ou des gens qui viennent d'horizons et d'univers culturels, sociaux différents. Et essayer que tout ce petit monde se croise à la chicha avec, ouais, ce côté solaire et festif que peut avoir le sud. Et c'était important aussi de dire qu'on peut raconter des histoires qui se passent ailleurs qu'à Paris, quoi. Ce serait pas mal que la fiction française raconte des histoires qui se passent ailleurs qu'à Paris. Ça commence, hein, y en a, mais je trouve que dans le sud, on n'a pas assez souvent. Quand on monte Marseille et quand on monte le sud, on le monte souvent pareil avec des gros clichés à accrocher avec. Nous, on voulait montrer autre chose. On voulait pas montrer des calaches et du trafic de cocaïne. On voulait montrer des histoires d'amour et du quotidien dans une petite chicha de La Ciotat. Voilà.
On va continuer d'en parler. Florent Sauzé, Ohan Hadjadj, vous êtes nos invités jusqu'à midi sur Beurre FM dans ce studio B consacré à Grand Palais Chicha Lounge. La série dispo gratuitement, et c'est important, sur la plateforme France TV / Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci de passer votre dimanche matin avec nous. C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM, magazine ciné et de tout ce qui se regarde, puisque aujourd'hui, c'est pas un film, mais c'est une série dont on parle. Grand Palais Chicha Lounge, disponible sur la plateforme France.tv. Série de Florent Sauzé, avec notamment aussi Ohan Hadjadj, et puis tout un casting. On va en parler du casting, mais avant, on écoute la bande-annonce.
Ça fait longtemps que vous avez ce bar ?
Ouais, c'était le bar de mon père.
Ici, c'est chez nous, c'est le Grand Palais.
La suite en mauvais état.
Si tu veux attirer un bobo en chicha, il faut que ta chicha, elle soit au quinoa.
Nous, on est une chicha, ok? Donc la prochaine fois que tu mets tes putains de poubelles devant ma grille, t'as vu ta petite moustache là, je te la fume, et tes petits yeux de merlan frit, je te les crame avec mes charbons.
C'est tous les soirs, ça se passe au Grand Palais, la famille.
Il est beau, il est drôle, Zarma, il est élégant.
Est-ce qu'il se fatigue?
On peut se parler maintenant? Est-ce que t'es heureuse? Sur mes
lèvres. Depuis le début, tu dis que tu veux pas des mecs dans ta vie. Mais en fait, c'est de moi que tu veux pas. Ni les rires,
ni les larmes. Contrairement à elle, moi j'ai toujours cru en toi.
Même si je dois vendre ma chicha, qu'on mette une lame sous la gorge sur ma vie, tu l'auras pas, d'accord?
On est une famille, non? Donc c'est soit on se bat, soit je vends.
Derrière nos décisions, il y a des gens qui ont des valeurs, des projets, des ambitions. Ça vous parle, ça, ou pas?
Je comprends pas, en fait. T'es dans quel camp, toi? Si je perds ça, je perds toute ma vie, tu comprends?
J'aurais aimé avoir mon gros gamos, ma petite villa du 100 mètres carrés à Dubaï avec mon chien et mes enfants que j'aurais appelés Chelsea et Kaidé.
On l'entend, on rigole aussi beaucoup en regardant Grand Palais Chicha Lounge. Et on l'entend aussi dans la bande-annonce, la musique est omniprésente. Pour le coup, dans la bande-annonce, c'est tout le temps, mis à part le petit extrait qu'a fait la qu'on vient d'écouter avec la voix de Wander.
La musique est très importante. Est-ce que c'est une comédie musicale un peu Grand Palais Chicha Lounge? C'est la question. C'est la question que vous voulez, que vous me demandez qu'on vous pose.
Ouais, bah en fait, bon, c'est une comédie musicale, pas vraiment, parce qu'il y a pas de numéro de danse. Les gens ne s'arrêtent pas et d'un coup se mettent à chanter et tout quoi. Mais c'est important pour moi que, en tout cas, que tous les personnages aient un rapport à la musique, qui s'expriment par la musique, voire parfois qui s'en fassent leur métier. Ou pour Warda, par exemple, qu'elle en eût fait son métier. C'est français, ça, c'est juste français.
Je crois.
et c'était important du coup que les personnages puissent transmettre des messages ou transmettre des émotions à travers la musique et d'avoir un peu des références de comédie musicale qui sont autres que la comédie musicale américaine ou même française, et d'avoir un panel de musique et de mettre à l'honneur des musiques qui des fois sont comme les chichas un peu méprisées, comme le R&B par exemple, le rap, ce qu'on va même appeler des fois le rap de chicha, tu vois, qui souvent est victime de gros mépris comme ça et de condescendance. Et moi, je trouvais que j'avais envie de mettre ça à l'honneur et d'en faire quelque chose de beau et de d'émouvant. Voilà, tu vois.
Et on va même jusqu'à la grande musique orientale avec Warda.
Bah, carrément, l'idée c'était ça, c'était d'avoir vraiment un... Si vous, l'idée c'était, pour moi, c'était de faire du Grand Palais comme un nouveau cabaret, tu vois, comme un nouveau cabaret français avec toute son histoire, tu vois. Et donc l'idée c'était de partir du R&B et comment montrer que le R&B, ou justement ce qu'on va justement appeler ce rap de chicha, ou ce que d'autres appellent la zumba et tout, c'est aussi, ben, ça peut puiser ses influences dans le raï, dans les comédies musicales égyptiennes par exemple, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on arrive à Warda. C'est comme ça aussi que, tu vois, j'ai mis Scopitone dans la chicha pour montrer l'historique des chanteurs kabyles installés en France, qui sont mis, tu sais pas, mon ami, là, une chanson de Noura à la fin de l'épisode 4, et Noura qui chante en français d'ailleurs sur des morceaux des fois composés par Michel Berger, tu vois. Ouais, pas ce morceau là mais elle a fait d'autres morceaux composés par Michel Berger, okay, qui à l'époque était inconnu, tu vois.
Ouais.
Parce qu'en fait on se rend pas compte, mais Noura c'était une star à l'époque, et qu'à un moment, bah justement, elle a voulu essayer de chanter en français. Et donc l'histoire de la chanson française, c'est aussi ça, c'est aussi des chanteurs et des chanteuses algériennes ou qui ont vécu en Égypte et qui ont fait des comédies musicales. Et je voulais que la série rende hommage à tout ce spectre, que ce soit en partant du rap d'aujourd'hui ou du R&B d'aujourd'hui, jusqu'en allant dans ces musiques-là. Il y a même de la chanson, il y a même du gospel, il y a même on aurait pu mettre du rock, il y a même de l'opéra. On termine un épisode par de l'opéra. Enfin, tu vois, l'idée c'était de tout balayer comme ça. Voilà.
Vous parlez du Scopitone qui est dans le bureau de Warda, qui lui a été transmis par son père, puisque c'était avant d'être un détenu, c'était le bar de son père. Il lui a transmis, elle le dit à un moment dans un épisode, je crois, c'est mon père qui m'a transmis son goût pour la musique. C'est ça qui a fait qu'elle a envie de faire de sa chicha quelque chose qui soit plus qu'une chicha, donc presque un cabaret.
Un lieu de... Ouais, je pense. Enfin, c'est possible. En tout cas, j'ai pas réfléchi vraiment à cette backstory, je sais pas comment on dit, mais de Warda à ce niveau-là. Mais je suis persuadée que oui, effectivement, quand elle dit que c'est son père qui lui a donné le goût de la musique et qu'elle veuille qu'il y en ait beaucoup au Grand Palais, oui, je pense que c'est pour lui, quoi. En plus, elle a du mal à accepter que sa mère ne veuille pas y aller, en fait. Sa mère, elle veut pas du tout aller au Grand Palais, et ça, pour Warda, je pense que c'est très dur. Donc ouais, elle essaie d'en faire un lieu qui fait penser à son père, je pense.
Il y a de nombreux guests dans la série. On va citer Yambilis, on va citer Saf, DJ Amida, Jimmy Laloutre, aussi le magicien Kader Bueno, le comique Hakim Omiri. Comment vous les avez choisis?
Ah, c'est une bonne question, ça. Écoute, on les a choisis un peu selon... Parce que ce qui était compliqué, c'est que quand t'écris le scénario, tu sais pas encore s'ils vont pouvoir venir, tu vois. Enfin, en tout cas, tu dis, ok, tu t'essayes de cibler des artistes, tu vois. La magie, on l'avait ciblé. Le stand-up, on l'avait ciblé. Après, qui va venir? Et pour la chanteuse, par exemple, on savait qu'on avait une chanteuse en épisode 2. On savait pas encore qui, quoi. Et ce qui était aussi important, c'était de dire que ce lieu pouvait être, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, un endroit où des artistes peuvent soit débuter, soit faire des tournées. En fait, il y a plein de salles auxquelles ces artistes-là n'ont pas vraiment accès, parce que c'est d'autres réseaux, tu vois. Et que, en fait, les chichas, même si c'est un peu tabou dans le rap souvent, c'est quand même une sorte de réseau pour que des artistes puissent tourner, puissent gagner leur vie en tournant, et alors qu'ils n'ont pas forcément accès à des salles de concert traditionnelles. Donc on allait chercher des
artistes. C'est un tremplin, en fait, un peu.
Ouais, exactement. Mmh. C'est un tremplin, c'est un lieu où tu peux directement communiquer avec ton public, qui va pas être, je te dis, dans les salles de concert plus classiques, en tout cas en province, parce qu'à Paris, il y a tout un panel de choix, tu vois. Mais quand tu vas dans des petites villes de province, en fait, soit t'as un zénith à Montpellier ou Marseille, machin. Mais le, tu vois, l'artiste que tu écoutes, qui est pas encore la big star, on va dire.
Il peut pas tout faire le zénith. Ouais, on va le voir dans une salle de proximité.
Exactement. Quoi. Et donc, tu la vois dans ta chicha. Donc, l'idée, c'était de trouver des artistes qui soient déjà assez en place pour qu'on ait envie de les voir et qui, en même temps, soient encore, on va dire, en développement pour que ça soit crédible, qu'ils soient dans le Grand Palais. Donc, voilà, c'était tout un casting.
En parlant de chanteur en développement, il y en a un qui est vraiment en développement. On ne sait pas s'il va se développer. Il chante un peu faux. L'autotune, l'autotune, il peut rien faire. Est-ce que c'était un peu une manière de se moquer un peu gentiment de l'emploi massif de l'autotune dans certaines musiques?
Ouais, bah, tu vois, le truc, c'est il faut aussi s'amuser de. À la fois, ce que je voulais mettre en valeur, il faut aussi s'en amuser, tu vois. Et ouais, bah oui, forcément. Et donc, en plus, vu que c'est le truc, les premiers trucs qu'on va attaquer sur ce style de musique, c'est l'autotune. Je sais pas pourquoi les gens se sont mis en tête l'autotune. Ah, j'aime pas Jules parce qu'il a mis de l'autotune. Ouais. Enfin bon.
Ah, je voulais l'utiliser autrement. Je voulais l'utiliser en vrai instrument de musique presque.
Bien sûr.
Il y en a plein qui l'utilisent, ils savent pas chanter.
Exactement. Il faut savoir l'utiliser, je pense.
Jules, il y a un vrai travail. Ouais. Tu vois, justement, moi, des fois, Jules, ça me fait vraiment penser. Pour moi, tu vois, Jules, par exemple, c'est pour moi un vrai descendant du rail, des chanteurs de rail. Tu vois, il y a vraiment une filiation pour moi qui est évidente. Tu vois.
Il y a beaucoup utilisé l'autotune, évidemment.
Exactement. Ah, oui.
Mais lui, là, c'est pour c'est Amine, c'est un acteur qui s'appelle Amine Gedja. Et l'idée, c'était à la fois de s'en amuser et en même temps de montrer qu'à un moment, Wardal, elle est en galère, quoi. Donc, du coup, elle fait venir des artistes qui sont vraiment en développement ou qui ne devraient pas se développer du tout, quoi.
Oran, vous vous êtes transformée en chanteuse. Cœur sourd a même vraiment été enregistré. Hein. Il est disponible sur Internet. Vous avez un titre sur Deezer et Spotify, quoi.
C'est un truc de fou. Ouais, c'est impressionnant, ça.
Quel souvenir de cette expérience? Vous aviez chanté avant?
Du coup, avant, j'étais dans un conservatoire de théâtre. Donc, on chantait un peu en groupe. Comme ça, et donc j'avais déjà chanté devant des gens, mais je m'étais jamais dit que le chant ça pouvait être un truc qui me correspondait vraiment, comme la comédie par exemple. Et du coup, quand Florent, dès le premier casting en fait, quand ils m'ont dit est-ce que tu chantes, j'ai dit oui, et que je me suis dit ok, là il va falloir que je chante vraiment. Ouais. Et qu'après, en fait, avec Florent, on s'entend très très bien, donc il m'a mise vite à l'aise sur l'idée de en fait, il n'y a pas de pression, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, ou si tu arrives pas, si tu arrives pas, il n'y a pas de problème. Du coup, ça m'a détendue, et quand je suis allée en studio, et que j'ai vu tous les disques de Jules de partout, là, sur tous les côtés, c'était incroyable. J'étais très impressionnée, mais après, ça s'est bien passé. J'étais très bien entourée, donc ouais, ça s'est bien passé.
Et juste d'ailleurs, on fait une petite dédicace à Spike Miller et à Thury et à Russell qui ont vraiment travaillé avec Oran pour la mettre aussi hyper à l'aise.
Ouais,
et la guider en studio, et c'était très beau moment. Voilà.
Heureusement qu'ils étaient là, ouais.
C'est peut-être eux aussi qui ont enregistré le titre Chaviré, le titre de Elams.
Ouais, tout à fait. C'est une équipe, c'est Spike Miller qui a dirigé le. Spike Miller, c'est un peu le producteur officiel d'Alonso depuis des années, et c'est lui qui a dirigé la fabrication de la musique de la série, qui a composé avec son équipe Lia, Stina, Thury et d'autres. C'est une équipe où il y a des beatmakers, des ghostwriters.
Et c'est des vrais titres, hein. Ils sont calibrés radio, quoi. Enfin, on écoute la série.
Ils sont sur Spotify.
Vous
allez vous régaler. Ouais, et Elams aussi, Elams qui est un rappeur qui est pas spécialement dans ces registres-là et qui s'est vraiment prêté au jeu d'aller dans ce registre un peu love, un peu sirupeux, et qui l'a très très bien fait. Et Chaviré est un morceau super, moi j'aime beaucoup.
Comment vous l'avez choisi, Elams, justement? Parce qu'on a parlé des guests, on peut aussi parler du casting.
Elams, en plus, c'est vraiment une super révélation. C'est la première fois qu'il joue. Bah, comme Oran, c'est vrai qu'on a vraiment des acteurs et des actrices qui ont fait vraiment leur premier pas à l'écran, on peut dire, et qui l'ont fait avec brio. Et Elams, c'était une rêve que j'avais dès le départ. C'est justement, je voulais aussi des artistes qui sont crédible dans le lieu. C'est-à-dire, je voulais pas non plus trop trahir l'esprit de la chicha. Et Elams, je l'avais en tête parce que je suivais sa musique, je suivais son parcours, surtout avec Bande Organisée qu'il a fait un peu péter comme ça. Et donc, je l'avais en rêve, mais je me disais, ouais, je sais pas s'il va venir jouer dans la série. Et au moment où on faisait le casting, on galérait à trouver Trésor. Et j'ai relancé cette idée. Je dis, allez, venez, on essaye de contacter Elams. Et il est venu. Et c'était génial, quoi. Il est venu au casting. Tout de suite, on a fait les essais avec Oran. Ça a matché direct. Oran, tu connaissais Elams, je crois. Hein, tu connaissais
ça? Ah ouais, moi, je connaissais très bien. Quand on m'a dit que ça allait être Elams qui allait jouer avec moi, j'étais un peu impressionnée parce que ça faisait des années que j'écoutais ses musiques. Donc, c'était très impressionnant. Et puis, après, quand j'ai vu que c'était sa première expérience en tant que comédien et tout, ça m'a un peu détendu. Je me suis dit, ok, tranquille, on est à la même.
Je me rappelle qu'Elams aussi, il est venu t'aider en studio. C'était cool aussi. Ouais, tu vois, il était en cabine avec Oran. Il l'a guidé.
y a eu une aide entre les acteurs, les chanteurs qui devenaient acteurs et les acteurs qui...
Exactement. En fait, on s'est passé des petits tips chacun de notre côté parce que, enfin, lui au début, peut-être, il était un peu impressionné à l'idée de, ben voilà, de devoir jouer beaucoup de scènes comme ça et tout ça. Et moi, je lui ai dit qu'il allait avoir aucun problème. Je l'avais vu déjà un petit peu jouer. Et puis même si Florent, il avait dit qu'il pouvait être là, c'est qu'il avait totalement sa place. Puis après, il a perdu ce truc-là. Il a trop, trop bien joué. Et moi, vice versa avec la musique, il m'a beaucoup aidé.
Vous, Rennes, vous avez été choisi sur casting, donc vous avez postulé sur le casting, c'est ça?
Ouais, exactement. J'avais postulé pour le personnage de Wonder, parce que je correspondais du coup à l'âge et enfin, j'avais juste vu que je correspondais à l'âge et je sais plus ce que c'était la description, mais bref, du coup, je correspondais et du coup, je l'ai envoyé et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour le personnage de Warda. Donc là, ils me disent d'un coup 30 ans, patronne et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et finalement, en fait, c'est bon, ça marche.
Oui, ça marche. Ouais,
je crois que ça marche.
C'est ma belle histoire. C'est-à-dire qu'Oran, elle vient d'une candidature spontanée par mail et on en a eu 300 ou 400, tu vois.
D'accord.
Et on l'a. C'est d'ailleurs pareil, il faut rendre hommage à Léa Moscovitz qui l'a vu, qui me l'a envoyé et qui, dès le départ, quand moi je l'ai vu l'essai, j'étais là, waouh, elle déchire, elle envoie fort. Donc après, on s'est revus, on a fait pas mal de casting, ouais. Et on s'est revus pas mal de fois et parce que c'était quand même un pari aussi de dire, tiens, on va faire poser la série sur les épaules d'une jeune comédienne qui a encore rien fait et à chaque fois, elle venait au casting et elle déchirait ça, quoi. Et après, pareil, quand on allait en studio, Oran, c'est quelqu'un qui relève les défis, quoi. Elle respire un grand coup avant.
Voilà.
Et après, elle y va et elle a relevé les défis. C'était fort.
Et tout le casting, hein, est vraiment, enfin, bien, on sent le, dans la chicha, c'est une famille. Mais ça donne l'impression que il y a une famille d'acteurs qui s'est créée. Alors je sais pas si c'est une impression de quelqu'un qui a regardé la série ou si c'est vrai, vous allez peut-être me le dire.
Ouais, ben, ouais. Moi je pense qu'on peut te le dire. En vrai, ce qui était cool, c'était que quand on s'est tous rencontrés, déjà bon, on avait lu le script, on s'était dit ok, ils vont tous être potes, c'est sûr et tout, mais tu sais jamais comment vraiment ça va se passer quand tu rencontres les gens. Et là on a été étonnés parce qu'en fait les premières répétitions, elles ont été tellement fluides, quoi. On rigolait tous ensemble et on a très vite matché, que ce soit nous avec Wonder et du coup Charlène aussi. Toutes les trois, on était tout le temps fourrés ensemble et ça a créé vraiment des gros liens. Et puis là, le mot qu'on voit à l'écran, Bruce, il est presque pareil que ce mot-là. Donc en fait, comment ne pas s'attacher à lui.
J'ai jamais vu un videur aussi sympa. Hein.
Ah mais ouais, c'est clair. C'est vrai ça. Je devrais réfléchir. Wardal devrait peut-être réfléchir.
Non, il fait le job, mais il est sympa. Il y a une belle
entente entre tout le monde. Donc je pense que ce que tu as vu à travers l'écran, c'était réel en fait. On le vivait sur le tournage, nous, tous ensemble.
Et ça donne des envies d'autres séries, d'une saison 2 peut-être.
Ah là ouais, on en rêverait. Bah ouais, bien sûr. Tu sais, en fait, quand tu rassembles des acteurs, que tu crées des familles, que ça se passe à l'écran, que tu mets en valeur des univers ou des ce qu'on appelle des arènes en série, bah ouais, t'as envie à la fois de la développer et en même temps t'as envie de tu dis, ah ouais, il y a plein d'arènes encore, justement, et de lieux qui n'ont pas été développés en France ou ailleurs, tu vois, dans lesquels il y aurait matière à faire des séries. Parce que souvent, une série, c'est ça, c'est... Enfin, les trois quarts des séries, souvent, c'est une famille, en fait. On parle de famille, on retrouve des... Tu vois que tu parles de Friends à Grand Palais, à deux enfants. Exactement. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est des gens, en fait, qui créent...
Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Et ce matin, c'est d'une série dont on parle dans Studio B, Grand Palais, Chicha Lounge, est disponible sur la plateforme France.tv. Série de Florence Osé et Annie Salali avec au casting Oran Adjage, Elams Fouedamara, Eva Yo, Bruce Dombolo et Léa Persia.
Studio B, la revue de presse.
Avec nous donc Florence Osé et Oran Adjage. On est allé chercher sur Internet les différentes critiques qui sont parues sur votre série et ça va être l'occasion de répondre à ces critiques. On va commencer par celle sur Télérama de Pierre Langlais. Leurs interprètes quasi inconnus ont une tcha-tcha part, une présence physique originelle, un charisme indéniable. Mention spéciale à Bruce Dombolo, irrésistible en physio massif au cœur d'artichaut. Grand Palais Chicha Lounge avec sa dramaturgie trop appliquée a ici ou là des faux airs de feuilleton quotidien. Voilà, sa petite nuance, peut-être le trop appliqué, ouais. Et le feuilleton quotidien qui était pas un compliment dans la bouche de Télérama.
Ouais, bah en fait le côté feuilleton, c'était aussi un peu assumé quand même, parce qu'on voulait faire un peu aussi de la rom-com, tu vois, on raconte des histoires d'amour, est-ce qu'ils vont se retrouver, pas se retrouver, est-ce qu'ils vont être ensemble, pas être ensemble, tu vois, est-ce qu'il a trahi, il a pas trahi. Donc il y a un côté un peu assumé comme ça. Après trop appliqué, bah ouais, je sais pas, ça demande c'est quand même justement en effet appliqué à bien l'écrire pour que à la fois soit crédible, à la fois qu'on ait envie de suivre les histoires et qu'on puisse se demander vraiment mais qu'est-ce qui va se passer. Donc ouais, on s'est appliqué à bien écrire en effet.
Et sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Laure Balmont qui écrit un pur produit local conçu et réalisé dans le sud avec des acteurs au fort accent marseillais qui nous entraînent dans les volutes de fumée d'un club à chicha. Au premier épisode, on en pousse la porte, au deuxième on rentre et au troisième on ne veut plus en sortir.
C'est
addiction.
Mais ça c'est le défi de la série, c'est-à-dire d'ouvrir la porte, parce que je suis persuadé, je le sais, une fois qu'on a ouvert la porte, en effet, on est bien. Le seul problème, c'est que souvent les gens, ils ont tellement des a priori sur les bars à chicha qu'ils vont pas aller ouvrir la porte. Donc nous on leur dit aujourd'hui, ouvrez la porte, allez-y, vous
Welcome
allez voir.
Grand panier.
Vous allez être très bien, vous allez voir.
C'est vrai que le côté addictif, mais moi qui suis pas à la base un fan des feuilletons ou de. Quand on a vu le premier épisode, on va aller jusqu'au 10, quoi. Enfin, on s'arrête pas comme ça. Enfin,
ouais, c'était le but, quoi. Tu vois, c'était le but. Et surtout, l'idée, c'était justement de pas trop faire non plus un truc trop artificiel. Tu vois, donc, à la fois, ils mettent de la dramaturgie, ils mettent des histoires d'amour, de la rom-com, et en même temps qu'on y croit, que ce soit crédible avec nos personnages. Donc, si ça fonctionne, tant mieux.
Florence Osé, Oran Adjadj, vous êtes nos invités jusqu'à midi sur Beurre FM dans Studio B pour parler de Grand Palais Chicha Lounge, la série qui est donc dispo sur la plateforme France.tv. On vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de ramener un souvenir du tournage pour qu'on en parle ensemble. Alors on l'a posté sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Studio B. Qui veut en parler? Pourquoi vous l'avez ramené?
Moi je veux bien en parler. En fait c'est une vidéo. Là que je vous ai partagé en fait d'un moment où donc le personnage de Warda est censé chanter en live devant tout le Grand Palais, on va dire un bon public. C'est au dernier épisode pour ceux qui n'ont pas vu, je vous spoil pas, mais voilà. Et en fait Florent à ce moment-là me demande à moi Oran d'aller un peu dans l'émotion pour ce moment-là qui est très fort, et Warda il faut qu'elle ait les larmes et tout, et j'y arrivais pas, je sais pas pourquoi, alors que des fois j'y arrive comme ça vient tout seul, là j'y arrivais pas, ça venait pas. Et parce qu'en fait aussi on est en face de figurants bon qui sont eux aussi en train de travailler, peut-être qu'ils ont pas aussi l'énergie que j'attendais à ce moment-là, et donc je me sentais voilà.
Et puis c'est pas facile, c'est peut-être le plus
c'est
dur
pas facile
pour un acteur
aussi, en fait.
Je pense de pleurer
je sais pas. Ça dépend desquels, je pense, parce qu'il y en a qui pleurent comme ça, quoi. Moi perso, mais alors faire rire, c'est pas mon fort, tu vois. Donc ça dépend de chacun, je pense. Mais ouais, donc du coup à ce moment-là, Florent a une idée trop smart, trop, il est trop fort. En fait, ma maman était présente sur le tournage ce jour-là, et donc du coup il a fait venir ma maman dans le public. Et là, je peux te dire que quand j'ai vu ma mère et que j'étais comme ça en train de chanter, les larmes elles sont tombées direct. On aurait dit que c'était calculé. C'était parfait. Du coup, il a emmené ma maman dans le public, et c'est Léa Persia du coup qui fait la vidéo que je vous ai donnée, qui joue Charlène du coup. Elle est avec Elams aussi sur la vidéo, et elle filme du coup ce moment-là où ma mère a les étoiles dans les yeux, et moi c'était pareil. Et franchement, c'était un moment hors du temps. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment. C'était incroyable. C'était comme si tout était fluide, tout était simple, tout était logique en sa présence, quoi.
C'est ça aussi le métier de réalisateur. On imagine parfois que c'est juste raconter une histoire. Mais non, mais c'est ça la direction d'acteur.
Ah oui, en tout cas, là
c'est intéressant de voir les coulisses comme
ouais,
ça.
On connaît bien. Puis là, justement, dans la vidéo, vous verrez juste le moment d'avant. En fait, elle était au combo, ce qu'on appelle le combo, c'est devant les écrans qui retransmettent.
L'écran de contrôle.
Voilà, c'est la caméra filme. Elle était devant le combo, donc elle était très émue. Elle voyait sa fille chanter. Et voilà, donc je l'ai prise par la main, je l'ai amenée dans le public, je l'ai mise devant Oran, et là, voilà, l'émotion est venue, elle aussi, la main est très émue.
Dernier épisode, ça marche trop bien.
Il faut aller jusqu'au 12e épisode pour voir cette.
Ah oui,
cette
désolé.
Donc regardez la série, vous verrez. Et voilà, et donc c'était à la fois un moment émouvant pour les caméras et un moment émouvant dans la salle, quoi, avec nous. Et on le voit dans la vidéo, il y a Léa, il y a Elams qui sont là, tout le monde est dans l'émotion, et voilà, c'était un bon moment.
Vous parlez de votre mère, donc c'est votre vraie mère, mais ça donne l'occasion de rebondir sur la place des parents dans la série. Mm-hmm. Il y a la mère de Warda, et puis il y a le père à son nom, de Jassim, voilà, qui sont là. C'est un peu aussi un film sur l'importance des parents.
Ouais, en fait, en tout cas, c'est pas tant sur l'importance des parents que sur l'importance de ce qu'on nous lègue, tu vois, de quoi on est héritier, tu vois. On est héritier à la fois d'une histoire, collective, on va dire, mais aussi d'une culture, mais et aussi d'une culture que nous on va se créer. Donc c'était important de, à la fois pour le personnage de Warda, de savoir de quoi elle hérite et de quelle culture elle hérite et de quelle culture elle s'est fabriquée, en grandissant, en devenant une femme, en devenant une chanteuse de R&B, en devenant une patronne d'un bar à chat. Et c'est vrai que c'était le, on a essayé de faire ça pour tous les personnages. Après, sur 26 minutes, on peut pas faire exister tout le monde, mais l'idée c'était ça, c'était la question de fond, on va dire, c'est qu'est-ce qui fait culture commune, on va dire, tu vois.
Héritier ou prisonnier, parce que pour Jacine, c'est plus difficile la relation avec son père.
De toute façon, c'est toujours un peu difficile de s'affranchir de quoi on a hérité, tu vois. C'est quand même toujours difficile, d'autant plus quand les parents ont des grands projets pour vous, ou justement quand. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment on peut, les questions de transfuge ou de transclasse, quoi. Comment on passe d'une classe à une autre, comment on passe, tu vois. Et que Jassim, lui, au départ, il n'est pas du tout disposé à ce que sa vie tourne autour d'un bar à chicha. Pas du tout. Lui, il est agent immobilier. Il vient plutôt, justement, de ce qu'on appelle la haie algérienne. Il vient d'un milieu plutôt très bourgeois, très aisé, tout ça. Donc, c'était aussi l'idée de voir des personnages, là aussi, qu'on ne voit pas. Un personnage comme Jassim, c'est un personnage qu'on ne voit jamais en fiction, quoi, tu vois. Donc c'était intéressant de montrer ça et justement de montrer comment est-ce qu'on arrive à s'affranchir de sa culture, mais en tout cas de son héritage, de ce que notre père ou notre mère ou notre famille nous a transmis. Et s'en affranchir, c'est pas forcément lui tourner le dos ou être en guerre avec, hein. C'est juste arriver à trouver son propre chemin.
Le mettre à la bonne place.
Exactement, le mettre à la bonne place, bravo.
La chicha est menacée par la transformation du quartier, hein. C'est un des thèmes de la série. Elle commence, on va dire, à faire tache dans le nouveau décor qui est en train d'être construit autour de cette place. Ça amène le thème de la gentrification. Alors, c'est le mot un peu compliqué pour quand la population d'un quartier de classe modeste change au profit de classes sociales plus favorisées, on va dire, et que ça chasse les anciens habitants. C'est quand même un des thèmes centraux de la série. Vous vouliez parler de ça?
Bah ouais, ce que je te disais au début, c'est aussi pour ça que je voulais la gentrification, tu peux la trouver à Paris ou dans les grandes villes, mais je pensais que ce serait beaucoup plus visible dans une petite ville. Et l'idée encore, c'était de pas forcément faire, tu vois, pour reprendre l'article, pas forcément faire les méchants gentrificateurs contre les gentils propriétaires de chicha. C'était de montrer justement, tu vois, toujours pareil, quoi. Qu'est-ce qui fait culture commune? Qu'est-ce qui fait que vivre ensemble? Qu'est-ce qui fait que on peut aussi, tu vois, l'idée c'était de raconter par exemple une histoire d'amour entre Ben et qui tient la sandwicherie à côté et Wander, en tout cas d'amour ou de désir ou en tout cas d'attirance réciproque ou de comment on trouve des ponts à un moment entre des gens qui normalement ne devraient pas se croiser ou devraient se mépriser ou devraient ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt, tu vois, et qui en fait vont en trouver un parce que il peut y avoir juste un intérêt à découvrir l'autre. Voilà,
c'est
ça, tourner
ça,
là, tu vois, à s'aimer malgré tout et à vivre ensemble surtout.
Ouais.
Dans les histoires d'amour qui sont développées dans la série, vous osez même aller sur le terrain de l'homosexualité où on n'attend peut-être pas une série qui se passe dans une chicha. Alors, c'est peut-être un cliché de dire ça, mais c'est pas ce qu'on attend.
Ouais, encore une fois, c'est en fait. À partir du moment où je partais sur un lieu qui. Encore une fois, je reviens à l'idée de la petite ville, c'est parce que la petite ville, du coup, ça permet. Où ça ne permet pas plutôt de faire des endroits trop communautaires, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas beaucoup de lieux où sortir, il n'y a pas beaucoup de lieux où se retrouver le soir, donc en fait dans des petites villes comme ça t'as pas énormément de choses à faire, donc à la chicha il peut y avoir des gens à la fois de milieux sociaux ou culturels différents, mais aussi forcément d'orientations sexuelles différentes. Et l'idée c'était d'en parler, de pas non plus trop tomber dans cet écueil-là de genre on va vous montrer, on va soulever tous les tabous possibles, mais aussi de dire ça peut exister, il peut y avoir ça. Et c'est vrai que du coup le personnage de Saint Laurent, on l'a travaillé pour avoir justement cette espèce de personnage de nuit un peu interlope comme ça et qui pouvait déceler chez les gens des choses. Et justement là en l'occurrence chez Driss, il voit quelque chose, il sent quelque chose, donc c'était l'aborder. Mais pareil, tu vois, comme je te parlais pour Ben & Wander, de poser une première graine d'un truc de tiens, qu'est-ce que ça va révéler de nos persos. Et l'idée c'était ça, c'est de révéler plein de facettes différentes et d'y aller vraiment, quoi.
Et qu'est-ce que ça donnerait dans la saison 2, on verra.
On verra, Inch'Allah.
En tout cas, c'est Grand Palais Chez Challenge, c'est dispo sur la plateforme France.tv. Merci Florence Osé, merci Aurana Djadj d'être venue nous voir ce matin dans Studio B. Votre week-end magazine continue sur Beurre FM avec le book club de Philippe Robichon. La semaine prochaine, on parlera du documentaire Bye Bye Tibériade, qui nous emmènera en Palestine avec Yann Abbas. Vous pouvez retrouver cette émission, si vous avez loupé le début, directement en podcast sur beurrefm.net, sur l'application Beurre FM et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve donc dimanche prochain 11h midi et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.